Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que cet été, vous avez l'intention de fêter la fête nationale des Québécois? Ben, j'imagine que oui. Hein? Chaque année, c'est quand même un moment important, qu'on soit nationaliste ou pas. C'est le seul moment de l'année où on célèbre l'identité québécoise dans toute sa complexité, dans toute sa beauté. Ben, cette année, c'est quand même assez particulier parce que le Mouvement national des Québécoises et Québécois a demandé à nul autre qu'Émile Bilodeau d'animer la soirée de la fête nationale. Ça fait pas l'affaire de tout le monde. Entre autres, ça fait pas l'affaire du tout du Mouvement laïque québécois. Et justement, Marie-Lou Allary, qui est représentante du Conseil national du Mouvement laïque québécois, est avec nous en studio. Bonjour, Madame Allary.
Bonjour.
Alors, ça ne fait pas votre affaire à tel point que, au nom du Mouvement laïque québécois, vous avez écrit une lettre aux dirigeants du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour contester leur décision de confier l'animation de cette soirée-là à Émile Bilodeau. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Émile Bilodeau? Il est fin, il chante bien, il y a des belles tunes.
Oui, absolument. C'est un jeune homme rempli de talent. C'est pas du tout ça qu'on met en doute. Par contre, ses prises de position au cours des derniers mois, au cours des dernières années, à l'égard des Québécois et des Québécoises qui endossent notamment la loi sur la laïcité de l'État sont sérieuses. Selon lui, là, la loi sur la laïcité de l'État, c'est une estie de loi misogyne, islamophobe et dégradante.
Là, évidemment, quand vous utilisez le estie, il y a des petits guillemets avant.
Il y a des petits guillemets.
C'est comme ça qu'il parle. Et il a tenu ces propos-là, quoi, pas dans une de ses chansons, mais sur ses différentes tribunes.
Absolument, sur ses médias sociaux. Donc, ça fait partie de son discours là, depuis un certain temps, depuis sa prise de position en 2020 lors de la fête nationale avec son macaron à l'encontre de la loi 21, qui est une prise de position qu'on doit quand même respecter. C'est un artiste, il est engagé. Au Québec, on doit jouir d'une certaine liberté d'expression. On ne remet pas ça du tout en question. Par contre, la fête nationale, c'est la fête des Québécois, la fête des Québécoises. C'est une fête qui...
De tous.
Exact.
Peu importe, justement, leur opinion politique ou leur opinion sur certains enjeux sociaux.
Voilà.
Donc, votre crainte, c'est quoi? Que ce ne soit pas un artiste suffisamment rassembleur?
Entre autres, on connaît ses prises de position hein, qui sont très claires. Sa présence dans le spectacle, je la considère importante. Il fait partie de la diversité culturelle. Mais si on veut représenter la diversité, où est la contrepartie d'Émile Bilodeau? Où sont ceux qui, eux, ont à cœur la laïcité de l'État? Pourquoi on n'invite pas, par exemple, lors de ce spectacle-là, une femme musulmane d'origine tunisienne, par exemple, une francophone qui a choisi le Québec pour sa laïcité de l'État? Hein? Par exemple,
non, ça peut être Nadia El Mabrouk, ça peut être Leïla Lesbette, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs qui pourraient, par exemple, faire un discours patriotique.
Intéressant.
Oui, et rendre honneur à la terre d'accueil, parce que c'est une terre d'accueil extraordinaire. Et je le sais qu'on aura beau... On tente par tous les moyens de nous faire entrer dans la tête qu'on est islamophobe, qu'on est discriminatoire, etc. On dirait que à force de répéter ces mots-là, les gens comme Émile Bilodeau pense qu'on va finir par croire qu'on l'est. Mais nous, on n'accepte pas ce discours-là.
Je comprends. Alors, je trouve ça très intéressant parce que dans la lettre que vous avez fait parvenir aux gens du Mouvement national des Québécois qui organisent cette soirée, qui ont donc choisi de confier l'animation à Émile Bilodeau, vous citez, ou enfin Daniel Baril, qui est le président du mouvement, cite une des chansons d'Émile Bilodeau qui s'intitule, c'est ironique, « Je me souviens ». Alors, pour pas qu'on nous fasse un procès d'intention en disant « vous avez mal cité le contexte », etc., l'extrait est un peu long, mais on va écouter un bon extrait quand même de cette chanson-là, où il parle justement de la laïcité.
Parfait.
Encore plus loin, je me souviens très bien de la religion qui avait les deux mains dans notre société. Fait qu'on l'a torsé, puis on s'est modernisé. Y a bien des choses qui ont changé, mais on s'est jamais écrasé. Fait que pourquoi qu'en 2020, on a encore plus peur de nos voisins? La laïcité de l'État, il faut la garder en bon état, mais pas en dépit de tous nos amis qui vivent ici.
Donc, la laïcité de l'État, il faut la garder en bon état, mais pas en dépit de nos amis qui habitent ici. Bon, on peut critiquer le sens de la rime d'Émile Bilodeau ou sa livraison, mais il reste que dans cette chanson-là, quand même, il associe la laïcité de l'État à une certaine intolérance ou enfin, bon, bref. C'est ça, c'est là que le bât blesse pour vous.
Oui, bien, on fait toujours ce lien-là qui, selon nous, n'est pas fondé.
Pourquoi? Pourquoi, Marie-Lou, il n'est pas fondé? Parce que moi, je trouve ça très intéressant, votre point de vue, mais je pense qu'il faut aussi, en contrepartie, expliquer mieux, peut-être, la laïcité pour défaire ces différents mythes-là qui y sont associés.
Oui, mais la laïcité, ce qu'elle vient faire, hein, c'est que elle vient, premièrement, créer une séparation franche entre la religion et les affaires de l'État. Alors, à partir du moment où tu es dans une institution de l'État, tu es en territoire neutre. Donc, peu importe ton origine, peu importe ta confession religieuse, quand tu arrives à l'école, par exemple, c'est en terrain neutre. Il y a une obligation de neutralité religieuse pour que tous se sentent chez soi, à l'aise.
Alors, c'est très bien résumé.
C'est tout le contraire de la discrimination, en fait. Et c'est pour ça que des femmes de Tunisie, d'Algérie choisissent le Québec pour la laïcité. Elles veulent que leurs enfants aident soit dans des classes où, justement, l'État ne fait pas la promotion d'une religion en fait ou en apparence.
Que l'État ou les représentants de l'État, pendant leurs heures de travail, n'aient pas de signes ostentatoires qui sont liés à une religion ou à une autre, de la même façon que, par exemple, on n'aimerait pas qu'un professeur d'histoire des États-Unis se promène avec un T-shirt marqué « Make America Great Again » parce que ça voudrait dire qu'il est pro-Trump. Donc, il y a une neutralité dans ce cas-ci. On parle de neutralité religieuse et pas de neutralité politique.
Bon,
moi, je trouve ça très intéressant que vous remettiez en question donc le choix d'Émile Bilodeau, mais je vais me faire quand même l'avocat du diable. Hein? Oui. Puis je suis sûre que vous êtes capable c'est important aussi en démocratie de le faire, même si les gens savent très bien que je suis pro-loi 21, même je trouve que la loi 21 va pas assez loin. C'est bien pour dire. Est-ce que En écrivant cette lettre-là au Mouvement national, en disant vous auriez pas dû prendre Émile Bilodeau comme animateur de la soirée, est-ce que c'est pas un peu, ça participe pas un peu quand même de la culture de l'annulation, la fameuse cancel culture? Est-ce que vous réclamez quoi, qu'on mette Émile Bilodeau à la porte puis qu'on mette quelqu'un à la place? Est-ce que vous allez aussi loin que ça?
Non, pas du tout. Justement, au Mouvement laïque québécois, on n'est pas dans la culture de la cancellation, pas du tout. En fait, nous, Émile Bilodeau utilise son droit de s'exprimer, bien, le mouvement laïque fait la même chose en communiquant avec le mouvement national des Québécois. Puis en soulevant le fait que le mouvement national des Québécois hein, a toujours fait la promotion de la laïcité de l'État.
C'est oui, grand... vous avez plusieurs exemples dans
absolument,
la lettre.
Absolument, c'est un grand oui. défenseur de la laïcité de l'État. Et même le mouvement national des Québécois, lui, allait plus loin. Il voulait que tous les représentants de l'État, pas juste ceux qui sont en position d'autorité, donc... tous les représentants de l'État devaient être neutres, donc sans signe religieux apparent. Alors, c'est une organisation qui comprend la laïcité de l'État, qui la défend. Et donc,
c'est qu'on s'explique mal comment ces gens-là, qui sont pourtant, qui ont fait preuve justement d'appui oui. à la laïcité, ont choisi quelqu'un qui est contre. C'est un petit peu comme si tu passes ton temps à promouvoir le végétarisme, oui. mais le jour où tu fais une fête, ben tu demandes à un représentant de McDo de venir animer ta fête. Là, oui. La comparaison est peut-être un peu grossière, mais ça ressemble un peu
oui.
à ça.
C'est vrai, le Mouvement national des Québécois, c'est l'organisateur officiel de la fête nationale, mais elle est dédiée à qui, la fête nationale? Aux Québécois et Québécoises qui, eux, sont derrière la loi sur la laïcité de l'État. Et Émile Bilodeau l'a dit en 2020, lui, il était dans un état de confrontation quand il s'est présenté avec son macaron. Alors, est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est l'endroit, le 23 juin sur les plaines à Québec? Est-ce que c'est un lieu de confrontation ou c'est plutôt un lieu d'échange, de bonne humeur? Et surtout, je pense qu'il faudrait souligner nos valeurs qui nous lient, les Québécois. Cette soirée-là, pour moi, elle devrait être consacrée à ça. Et,
mais c'est quoi votre crainte? Votre crainte, c'est que le 23 juin, il monte sur scène et il fasse un laïus anti-laïcité comme il l'a fait de façon silencieuse en portant son fameux macaron. Je veux juste rappeler ce qu'il y avait sur le macaron. Là. Et vraiment, c'était en évidence sur lui, au revers de sa chemise.
Oui.
Et c'était 21 barré, là, oui. comme un stop ou comme une interdiction.
Oui.
Donc, est-ce que c'est ça votre crainte?
Bien, écoutez, ça, c'était en 2020. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Hein? Tout le monde a peut-être acquis un peu de sagesse depuis. Mais l'an dernier, le 24 juin 2022, il a quand même fait une sortie sur ses médias sociaux. Et là, je le cite.
Oui.
Les Québécois qui défendent la loi 21 sont complètement à côté de la calisse de trac. Alors, là, on c'est...
Donc, 70 % des Québécois sont à côté de la calisse de trac,
ben,
M. Bilodeau. Oui.
Alors... nous, un peu, notre intervention au niveau du Mouvement national des Québécois, c'est est-ce que c'est ça qui nous attend le 23 juin ouais. prochain sur les plaines d'Abraham?
Je comprends. Votre démarche en est plus une de questionnement.
Absolument.
Et on
oui.
comprend que ce n'est pas une question de censure. Vous
non.
ne souhaitez pas soit dire à dicter à Émile Bilodeau quoi dire ce soir-là, ni souhaiter qu'il soit retiré, mais vous questionnez sur la pertinence de ce choix-là. Puis je trouve que c'est important de vous avoir donné la parole. Alors, ce que je vais faire, merci beaucoup, Madame Allary. Je rappelle
plaisir.
Que vous appelez Marie-Lou
oui.
Allary, que vous êtes représentante du Conseil national du Mouvement laïque québécois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une invitation. Je regarde ici mes collègues à la recherche. On va lancer une invitation à Émile Bilodeau parce que j'aimerais beaucoup qu'il puisse... on va lui faire entendre des extraits
oui.
de l'entrevue avec vous. Je pense que même vous seriez intéressé à avoir sa réponse. Donc, on va le lancer. Espérons qu'il va accepter notre invitation. Ça va donner lieu à un dialogue extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Mme Allary.
Bien, je le souhaite en tout cas. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Il y a notre collègue Marie-Ève Doyon dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui a écrit une chronique qui fait beaucoup jaser, surtout avec le titre. Ça s'intitule « Voyeul ». Elle était cœurée des gens dans les festivals qui parlent fort, qui sont sur leur cellulaire, qui dérangent les autres spectateurs. Toi, comment tu réagis à ça?
C'est un phénomène qui est grandissant, Sophie. C'est presque alarmant. On dirait depuis la pandémie, c'est encore pire. Je suis allé au cinéma dernièrement et je te dis, c'était littéralement une réunion de commères qui jasaient et qui jasaient. Là, ça commence pendant les bandes-annonces. Tu te dis, ah, ça va être temporaire, ils vont se la fermer quand le film va commencer. Mais non, ça continue pendant le film et ça passe des commentaires à haute voix, comme dans leur salon. Et même chose, je suis allé au Centre Bell voir un spectacle dernièrement. Quand c'est pas les bruits qu'on entend, les dialogues, ben, c'est une pluie d'écrans qui te cache la vue.
Voilà.
Parce que les gens sont trop occupés à filmer le spectacle plutôt que de le regarder. Donc, on dirait que ce que je peux dire, Sophie, c'est qu'on ne manquera pas d'archives. Parce que tout le monde filme tout ce qu'il voit. Ouais. Et c'est un phénomène. Tu vois pas le spectacle. Puis honnêtement, toi et moi, qui regarde les vidéos après?
Ben personne, jamais. Après, voyons donc.
Tu regardes une vidéo de Dépêche Mode rendue dans ton salon.
Ben non, filmé tout croche en plus. Écoute, je te raconte une anecdote. Oui, oui. Je te raconte une anecdote. Une de mes amies, elle est professeure de danse, OK? Et habituellement, elle va, tu sais, quand c'est dans les... elle fait toujours de présentations dans les écoles puis tout ça. Puis là, récemment... elle accompagnait sa fille. Elle animait, en fait, le spectacle de fin d'année à l'école de sa fille. Puis elle dit, ben là, je suis sur scène, puis je danse. Puis là, il y a plein de gens qui dansent. Puis elle dit, tout le long, je trouvais que c'était donc ben silencieux dans la salle. Puis habituellement, quand je fais des spectacles de danse, les gens sont dans la salle, puis tout le monde danse. Et elle danse sur du Tina Turner, puis des trucs. Puis là, elle dit, j'ai regardé comme il faut dans la salle, et j'ai compris pourquoi il y a personne qui dansait. Tous les enfants filmaient. Mais quelle tristesse, ouais. Mais quelle tristesse, Patrick. Des petits-enfants, t'es au primaire, normalement, tu devrais, tu sais, t'as Tina Turner qui est là, you're simply the best. Tous les enfants devraient être dans la salle en train de danser puis de faire des stepettes. Ben non, ils sont tous là, amorphes, en train de filmer avec leur téléphone cellulaire.
Non, c'est inquiétant. Puis autant au cinéma où les gens parlent, n'importe au théâtre.
Oui.
Combien de fois, là, c'est rendu qu'on est obligé de dire aux gens, si vous avez... On entend Denise Filiatro, théâtre ouvert, nous dire « déballez vos bonbons ». Mais les gens ne le font pas. Les gens, c'est le respect est rendu de plus en plus rare, puis on se fout carrément de ce qui se passe autour. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont dit ça par la pandémie. Moi, j'ai un peu de misère.
Oui, c'est facile.
Bon, la pandémie a le dos large. À un moment donné, il faut... Respectons les gens qui sont sur scène, l'œuvre... C'est devenu, on en a parlé cet hiver, t'as Yannick Nézet, c'est bien décidé d'interrompre un concert. Bravo Yannick, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ramener le respect dans nos salles et dans nos cinémas, dans les salles de spectacle? C'est un petit peu inquiétant. Et M. Fournier en parle aussi dans le journal ce matin.
Oui.
Donc, c'est pas un hasard. Il faut le
crier
haut et fort. Taisez-vous dans les salles de spectacle. Donc, voilà.
Mais t'as tout à fait raison, Guy Fournier en fait est allé voir Cendrillon puis disait qu'il était rempli des gens qui arrivent en retard. Tu sais, c'est correct, là, mais tu sais, quand le spectacle commence à 8 heures puis t'arrives puis 8 heures 20, fais-toi discret. Ben non, les gens rentrent en plein milieu, les gens sortent à l'entracte, ils s'en vont prendre un petit verre dans le lobby. Là, ils arrivent en retard à la deuxième partie du spectacle. Tiens, à un moment donné, l'entracte, là, ils font assez sonner longtemps la petite cloche ding, ding, ding. Tu sais, je veux dire, à la rigueur, tu peux, quand le spectacle, tu manques le début, tu peux dire, bon, on a de la difficulté à trouver du stationnement. Mais quand c'est que tu reviens de l'entracte puis tu reviens en train, c'est quoi? Tu as de la difficulté à stationner dans les toilettes?
Exactement. C'est complètement fou.
Alors, je te raconte une autre anecdote. Donc, la semaine dernière, il y avait un événement de levée de fonds pour l'OSM. Donc, il y avait Maestro Payaré. L'OSM était là. Donc, il y avait du Berlioz, Mendelssohn et tout ça. C'était absolument magnifique. Donc, c'est une soirée. Les gens payent très, 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 très cher là, leur billet. Il y avait un repas gastronomique et tout ça. Eh bien, pendant le concert, tu sais, ça dure juste 35 minutes. Là. Le reste de la soirée, vous allez pas... Pendant le concert, les préposés de la maison symphonique, à plusieurs reprises, sont intervenus auprès des gens qui sortaient leur cellulaire. Mais on te demande 30 minutes à accorder aux musiciens de l'OSM pendant une soirée où les billets se vendent plusieurs centaines de dollars pour ramasser des fonds pour ces musiciens-là. Le moins des respects, c'est de les écouter, de leur donner une demi-heure dans ta journée.
Je pense qu'il va falloir jouer à la maternelle et saisir les téléphones dans les entrées de salles de spectacle, ça continue. Mais tu sais que, je te raconte, Cyndi Lauper, une fois à Montréal, en métropolis,
ouais.
elle a quand même du chien et à un moment donné, en spectacle, elle s'est rendue compte qu'au bar, il y avait une gang de filles qui étaient un peu trop « girl, just wanna have fun », si tu veux.
Un peu trop coquetelle.
Un peu trop coquetelle et elle est descendue. Elle a dit, excusez, je vous dérange-tu parce que
non.
J'essaie de faire un concert et... Puis Cyndi, si on prend une photo ou qu'on la filme trop, elle va prendre le téléphone. Elle va dire, bon, je te le donne à la fin du spectacle. Et bon, je pense qu'il va falloir faire de la discipline avec... il va falloir jouer à la police, si ça continue, avec les spectateurs. Parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont un respect, mais ceux qui n'ont pas le font haut et fort. Et et sans gêne. Et donc, il faut, à un moment donné, pouvoir sanctionner d'une façon ou d'une autre, comme les réseaux sociaux. On va pouvoir faire une police des réseaux sociaux et une police des bruits et du non-respect dans les salles de spectacle. Et c'est fou, parce que moi, j'ai grandi en allant au cinéma et tout. C'était pas comme ça.
Non.
Dans les années 80-90, quand j'étais enfant, tu allais voir un film, il y avait un silence. Tu n'avais pas besoin de placarder des panneaux disant « Chut, on écoute le film ». C'est complètement fou. Pour infantiliser les gens maintenant, et ils ne respectent même pas les règles. Donc,
ouais. Alors,
voilà,
écoute,
Sophie.
Je suis 100% d'accord avec toi. On va prendre quelques minutes aujourd'hui quand même pour rendre hommage à Françoise Sullivan qui a 100 ans. C'est quand même incroyable, quelqu'un qui est né en 1923, vraiment une touche à tout, peintre, sculpteur, danseuse, chorégraphe, vraiment, elle a touché à tout. Et je suis très contente parce que la ville de Montréal donc va lui rendre hommage avec une murale. C'est vraiment une femme impressionnante, Françoise Sullivan.
Mon Dieu, je regardais danseuse, chorégraphe, peintre, sculptrice, photographe, artiste de la scène, complètement fou. Et enfin, la bonne nouvelle, Sophie, c'est qu'on lui rend hommage de son vivant.
Oui.
On va me dire, on a tiré l'élastique, la dame a 100 ans, mais on lui rend de beaux hommages dans Saint-Cy. Donc, il va y avoir une murale tout près des studios de Cube, une des façades de la place du Puy, qui s'annonce comme étant la plus grande murale à Montréal.
Oui.
Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va détrôner notre beau Leonard Cohen.
Ah.
Mais quand même, il va y avoir une belle murale de Françoise Sullivan. Et en ce moment aussi, on lui rend hommage aussi à la galerie Simon Blais, où on a recueilli plusieurs de ses œuvres pastel des années 96 à 2004, dont des œuvres récentes. Il y a aussi la galerie d'art de l'UQAM qui lui rend hommage avec une exposition virtuelle. Et le MAC, le Musée d'art contemporain, va avoir aussi une exposition de cette grande dame à l'automne. Donc, j'ai envie d'applaudir, Sophie, parce que on rend hommage à cette dame de son vivant et de multiples façons, et les jeunes vont pouvoir découvrir ses œuvres, qui elle était. Donc, bravo et... c'est pas rien, là. 100 ans, Mme Sullivan.
C'est pas rien. Et donc, une des plus connues, évidemment, des signataires du refus global.
Ouais.
Et à peu près une des seules qui reste avec le départ, évidemment, Riopelle, Bordua, etc. Ben, merci beaucoup, Patrick. Et puis, moi, je lève mon chapeau à Françoise Sullivan, une femme extrêmement impressionnante. Et en effet, il faut que les jeunes sachent qui elle est. Donc, bon 100 ans, Mme Sullivan.
Bonne journée, Sophie.
Merci.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. La rencontre Nantel-Durocher.
Non, c'est pas une joke.
Sophie Durocher.
Duduche, elle va se défendre.
Guy Nantel.
Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
C'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
La rencontre Nantel-Durocher.
Ça va être quelque chose. Bonjour Guy, aujourd'hui tu veux nous parler des cellulaires en classe au Québec.
Tu sais que je ne suis pas un grand fan des cellulaires, hein? J'en possède pas et j'en veux pas, Sophie, de cellulaires.
Non!
Non, j'en veux pas.
Attends,
ça rend le monde fou, les machines cellulaires. C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, les gens disent toujours, ah oui, c'est un outil qui est utile. C'est utile en autant que la personne ait la sagesse requise pour l'utiliser. Mais c'est justement ça. Les gens, ils n'ont pas la sagesse requise. Je fais mon jogging, je passe mon temps à crier au monde qui s'en vienne. Hey, regarde en avant de toi. Je fais des choses, je passe mon temps à dire au monde, on éteint notre cellulaire, ça fait 20 minutes que le show est commencé. Je conduis, je passe mon temps à klaxonner. 10-15 secondes après que le feu tombe vert parce que Roger, il fallait qu'il réponde à un texto direct là, tu comprends bien? Non, mais c'est vrai, juste la réaction du monde quand je leur apprends que j'ai pas de cellulaire. Ah, t'as pas de cellulaire, comme si je le disais, j'avais pas de poumon, tu sais. Ça en dit long sur le fait que les gens considèrent cette machine-là comme une extension d'eux
autres.
Même ça, c'est des adultes majeurs et vaccinés, bien corrects, qui font ce qu'ils veulent. Mais endoctriner nos enfants à avoir une machine en classe pour les assister en tout temps, ben, si au moins c'était pour des affaires de la classe, mais désolé, mais c'est pas ça du tout. On est en train de les envoyer dans le royaume des abrutis. Tu sais, je veux dire, ma fille me raconte l'autre jour en classe que maintenant, là, il y a une majorité de jeunes qui ont leur cellulaire dans les mains. Il y en a qui ne lèvent pas les yeux de leur écran du début à la fin. Le prof parle, là, c'est TikTok en même temps, des films complets, des musiques, des textos. Tout ça parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir 2 minutes d'attention sur une activité qui n'est pas un loisir. T'sais.
Mais il faut que
une solution simple, c'est qu'il faut éliminer les cellulaires en classe. Puis il y a 92% des professeurs qui le réclament au Québec. Là. La Fédération des syndicats de l'enseignement l'ont demandé. Mais la CAQ refuse, puis on ne sait pas trop pourquoi.
Oui. Alors, c'est important de spécifier, ta fille, elle a quel âge maintenant?
Ben là, elle est rendue au cégep.
Elle est au cégep, c'est ça. Donc, ouais. Mais non, mais c'est ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'on a abandonné, parce que normalement, les profs devraient pouvoir avoir plus d'autorité. Alors, je ne sais pas si tu as lu dans Le Devoir, c'est une prof, justement, qui écrit une lettre, un texte qui fait beaucoup jaser, ça s'intitule « Cet appareil qui tue en classe ». Et elle décrit, parce qu'elle écrit une lettre au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et elle dit qu'elle n'en revient pas à quel point, quand elle arrive en classe, c'est le silence. Elle dit « Je ne comprends pas, parce qu'en plus, pendant la pandémie, on disait que c'était important que les jeunes reviennent à l'école en présentiel pour pouvoir socialiser. » Elle dit, ben voyons, ils socialisent pas. Ils sont là chacun de leur côté avec leur cellulaire. Et je trouvais que c'est très pertinent ce commentaire-là. Parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, si t'es chacun sur son cellulaire, ben, elle est où la socialisation qui était supposément si importante pendant la pandémie?
Oh oui, puis on mettra pas la faute ces jeunes, on va la mettre sur nous autres, les adultes qui ont vers ça. Parce que, tu sais, quand ma fille était au primaire, là, ils ont forcé les enfants aux primaires, là. Une école publique, là, a pu travailler avec des livres puis des cahiers. Hein? Puis là, ils ont dit, bon, ben là, évidemment, tous les parents ont été forcés à l'époque d'acheter une tablette à leur enfant. Moi, je trouvais ça complètement débile. Évidemment, bon, tu sais, le réflexe du monde dans ce temps-là, c'est dinosaure, puis rétrograde, puis on est au 21e siècle. Mais moi, je le disais, ça va faire trois choses. Les jeunes, premièrement, ils vont toujours prendre l'habitude d'avoir une musique ou un jeu vidéo en écran partagé pour faire leur travail, parce que ça va devenir vraiment comme une drogue. Deuxièmement, ce que ça va faire, ben c'est exactement ce que tu viens de dire, des grandes lacunes en socialisation, parce qu'avant, quand on avait de la misère, il y avait un autre humain qui venait s'asseoir à côté de nous autres, qui se penchait sur notre épaule, puis on discutait du problème à solutionner, mais tu as aussi un vidéo tutoriel qui va te régler la situation. Puis finalement, ben, troisièmement, je me disais, les jeunes ne sauront plus écrire le français parce qu'il y a toujours une machine qui corrige automatiquement les fautes. Puis la moitié de ce qu'ils consultent, de toute façon, sinon plus, c'est en anglais. Fait que tout ça est arrivé 10 ans plus tard. Mais tu sais, la Suède, là, un grand pays innovateur qu'on prend souvent en exemple, ben, ils s'étaient fait prendre dans le piège, eux autres. Mais aujourd'hui, la Suède est de retour avec les bons vieux papier-crayon. Ils interdisent les cellulaires en classe. Même affaire en France, même affaire en Ontario, mais au Québec, c'est non. La semaine passée, la CAQ a renversé une motion du Parti québécois. Puis le Parti québécois, au début, demandait de l'interdire, le cellulaire. Là, l'opposition, les libéraux, puis QS, a dit non, on ne veut pas l'interdire, on veut juste l'encadrer. Il a dit parfois, on va mettre l'encadrer, puis la CAQ a dit on veut même pas l'encadrer.
Non, mais c'est incompréhensible. Je ne comprends pas à quel point certaines personnes au gouvernement ne comprennent pas, justement, le danger que ça représente. Et je reviens encore une fois à la lettre de cette enseignante sur l'appareil qui tue en classe. Elle dit qu'il faut apprendre aux jeunes à chercher dans un dictionnaire. C'est trop facile. Tu prends ton sel puis ça te dit, tu cherches la signification du mot effigie, mettons, n'importe quoi. Là. Bon, ben c'est sûr, ça te prend 3 secondes. Mais si tu prends le temps d'ouvrir un dictionnaire, de feuilleter, premièrement, tu apprends c'est quoi l'ordre alphabétique. Hein, c'est compliqué, ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il a fallu, c'est niaiseux, mais il a fallu que j'explique ça à mon fils. L'ordre alphabétique, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, à part un dictionnaire qui est en ordre alphabétique, il n'y a plus rien? Parce que quand tu fais une recherche avec un mot-clé. Donc, peu importe l'ordre. Alors, donc, d'apprendre qu'il y a une suite logique. Aussi, d'apprendre NF, non féminin, NM, non masculin. Apprendre. Puis, tu sais quoi? Ce qu'il y a de formidable avec un dictionnaire, Guy, mettons, tu cherches le mot effigie. Ben, peut-être qu'avant effigie, il va avoir le mot efféminé. Puis après, effigie, il va peut-être y avoir, je sais pas, un autre mot qui commence par EFF. Oh, mon Dieu, tu vas apprendre des nouveaux mots, toi.
Mm-hmm.
Alors, au lieu d'être resté dans ta petite bulle, il y a quand même des vertus au papier puis au crayon, là.
Ben, non seulement il y a des vertus, mais tu sais, même l'autre jour, tantôt, je faisais une recherche, puis l'autre jour, Radio-Canada a publié un article qui disait interdire le cellulaire, ce ne sera pas la solution. Enfin, je me suis dit, OK, je vais lire ça. Puis là, finalement, Radio-Canada, il interview des élèves, mais en fait, c'est en Colombie-Britannique, là, mais c'est des francophones, mais peu importe, le problème est le même là-bas. Puis là, je me dis, OK, mais là, il interview des étudiants. Fait que c'est pas vraiment des experts. Mais je me suis dit, on va être de bonne foi, on va le lire pareil. Alors, pourquoi ce sera pas une solution? Et là, on a le témoignage de 4 élèves de secondaire. Alors, Miles dit, interdire le cellulaire m'apporterait beaucoup de stress parce que je l'oublierais sans arrêt dans mon casier où je le perdrais. Samuel, des fois, j'aime ça faire jouer une chanson pour que je puisse m'arrêter de dormir en classe ou me perdre dans mes pensées. Alors, je trouve que le cellulaire est vraiment utile. Philippe utilise, entre autres, son téléphone pour de la musique. Bien, il dit, des fois, je parle avec mes parents si j'ai besoin d'informations ou avec mes amis, des fois à propos de l'école, mais des fois pas à propos de l'école. Si on fait juste penser à l'école quand on est en classe, c'est pas très bon pour l'anxiété. Iman, moi, je serais inquiète juste parce qu'en cas d'urgence, des problèmes scolaires, des problèmes entre amis, je trouve ça important de les régler. Si mon téléphone est interdit à l'école, mon anxiété va augmenter énormément. Mais tu sais, c'est parce que les gens réalisent pas que toutes ces notions d'anxiété-là, elles viennent de la machine.
Mais oui,
elles viennent de la drogue. C'est comme si quelqu'un disait, j'ai besoin de mon héroïne, sinon je deviens anxieux. Mais c'est parce que c'est le fait que tu sois héroïnomane que tu es anxieux. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est ça qu'il faut sortir des écoles. En dehors de la classe, je veux bien, là, mais je veux dire, quand tu es en classe, ton attention doit aller sur ce que tu as à apprendre.
Absolument. Mais quand tu décrivais tout à l'heure que ta fille au cégep, les étudiants sont tous sur leur selle pendant le cours, mets-toi à la place d'un prof. Et toi, tu vis la même chose, évidemment, sur scène comme humoriste, mais c'est la base de la communication. Si je communique avec quelqu'un que la personne, je n'ai pas son entière attention, que cette personne-là est concentrée sur un objet qui l'amène ailleurs, parce que quand tu es sur ton cellulaire, tu n'es pas là. Tu n'es pas là en pensée, tu n'es pas là physiquement, tu comprends, tu n'es pas là.
Mais je dis, ben oui, c'est pour terrible. Ça qu'on n'a pas le droit de l'avoir au volant, d'ailleurs.
Ben voilà. Mais je comprends pas l'opposition. Je ne comprends pas l'opposition du gouvernement à cette mesure-là. Écoute, merci beaucoup, Guy, de partager cette réflexion-là avec nous. Puis je m'en vais faire une entrevue avec Linda Lemay. Je vais lui poser la question, justement. Tiens, est-ce que des fois, elle, en spectacle, il y a des gens où elle est obligée de les engueuler à cause de leur cellulaire? C'est vraiment un
fléau. Oui, sa réponse.
La réponse est sûrement oui. Hey, merci beaucoup, Guy Nantel.
Ça marche. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Alors, c'est un immense plaisir pour moi de recevoir Linda Lemay, qui est évidemment auteure, compositrice, interprète. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Linda Lemay.
Bonjour, Sophie, ça va?
Ben, quel plaisir de vous avoir, d'autant plus que 2023, c'est une belle année pour vous. Deux nouveaux albums qui vont sortir le 16 juin, c'est tout bientôt. Et vous m'avez beaucoup fait rire, Linda.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que, on le sait, vous pouvez écrire des chansons sur tous les sujets. Vous avez une plume pleine d'imagination. Et là, vous m'avez fait mourir de rire parce que vous avez mis en chanson ce que je pense depuis des années, c'est quoi l'idée de boire du rosé? Alors, avant qu'on écoute un extrait de la chanson, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous haïssez le rosé autant que ça.
Ben en fait, ça remonte à il y a plusieurs années. J'étais avec mon éditeur Gérard Davous, qui est le partenaire de Charles Aznavour, qui était aux éditions Râle Breton, qui est devenu un très, très bon ami à moi. Puis je me rappelle, j'étais dans mes premiers voyages en France et un jour, il m'a offert de boire un verre de rosé. Et là, j'ai dit, mais pourquoi? Ça sert à rien du rosé. S'il y a du bon blanc ou du bon rouge, pourquoi on se contenterait d'un verre de rosé? Et il a trouvé ça tellement drôle que je pense que c'est pour lui récemment que j'ai décidé d'écrire cette chanson-là.
Mais vous y allez pas avec le dos de la cuillère parce que dans la chanson, vous parlez carrément, vous dites, c'est comme quelqu'un à qui on aurait enlevé ses testicules. C'est comme vraiment, là, vous êtes... l'image est assez forte quand même, là.
Oui, mais ça, évidemment, quand je fais de l'humour, eh bien, j'aime ça souligner à gros traits gras toutes sortes d'images, justement, pour déranger, pour faire réagir, parce qu'évidemment, il m'arrive de temps en temps d'en boire quand même des verres de rosé et de boire du champagne rosé. Je m'accuse d'avoir déjà apprécié le champagne rosé.
Vous allez vous confesser à l'église du blanc et du rouge en avouant. Alors, on va écouter cette chanson-là qui est vraiment rigolote de l'idée de boire du rosé.
C'est quoi l'idée de boire du rosé? Les rouges, les blancs sont tellement bons. Une fille a le droit d'être charmée par un bourreau, par un grand blond. Pas de s'arrêter entre les deux, puis de mordre à n'importe quel appât. Aussi bien se mettre à boire du bleu si on veut boire n'importe quoi.
Alors moi, je pense que les producteurs de rosé de Provence, par exemple, parce qu'on sait à quel point vous êtes populaire en France, ils vont peut-être se liguer contre vous, Linda Lemay, et vous convoquer dans les hautes autorités du rosé pour essayer de vous convaincre à leur religion.
Moi, je pense que dans mes loges, je devrais recevoir plusieurs bouteilles de rosé. Effectivement, je sens qu'on va essayer de me convaincre et me faire changer d'avis.
C'est très rigolo. Alors, donc, vous avez entrepris ce projet-là qui est un petit peu fou de faire 11 albums en 1111 jours. Donc là, les albums qui sortent là en juin, c'est les albums 8 et 9. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ah, mon projet est trop ambitieux, j'y arriverai pas?
J'avoue que j'avais peut-être mal calculé la charge de travail que ça signifierait parce que je porte plusieurs chapeaux dans ce projet-là. C'est un gros marathon de chansons. C'est un peu, il y en a d'autres qui font Compostelle. Moi, j'ai décidé de me lancer un défi de chansons et j'ai bien l'intention de me rendre au bout en méditant quand les choses me dépassent, en m'élevant et en me disant bon, mais c'est pas grave, ça, on va passer par-dessus cette épreuve-là et je garde le focus. Mais oui, il y a eu des moments. Ou est-ce que, par exemple, il y a des gens qui m'ont, je dirais pas abandonné parce que je comprenais que on puisse souffrir d'épuisement. Donc, des gens qui m'accompagnaient au moment où on devait avoir encore plus d'employés, il y a des employés qui m'ont quitté. Alors, c'est sûr que moi, j'ai la chance, quand je suis sur scène, de me nourrir de l'amour du public.
Oui.
J'ai des grosses doses d'adrénaline qui me permettent de me nourrir, là, justement, quand je me sens un petit peu vidée, eh bien, ça me donne un coup d'énergie. Et c'est pas le cas toujours pour ceux qui travaillent ou celles qui travaillent dans les bureaux, qui sont dans la comptabilité et tout ça. C'est très, très lourd comme projet parce qu'on apprend chez Alinda, qui est ma compagnie de production, à produire des albums. On est dans l'apprentissage de tout ça, mais avec un projet de 11 albums. Donc, apprendre sur le tas, là, c'est quand même assez intense. Alors, il y a eu des petits moments de découragement parfois, mais je me suis élevée et puis je me suis bottée de derrière. Et puis, on arrive donc aux 8 et 9 et je suis en train de préparer la sortie des 10 et 11 aussi, parce que ça s'en vient vite l'automne quand même.
Oui.
Et puis je sens que je vais me rendre au bout, puis je suis vraiment fière de tout ce qui s'en vient, fière des deux que je présente là. Je sens qu'il y a vraiment un crescendo là, ça n'a pas perdu en qualité du tout malgré le nombre d'albums. Au contraire, à force d'apprendre comme ça au fil des albums, on dirait qu'on s'améliore et que je vois de plus en plus clair dans ce projet-là qui est vraiment stimulant pour moi.
Alors, les titres des deux albums, il y en a un qui sort, qui s'intitule « Débordé de mots », comme une bordée de neige. J'adore l'image, elle est vraiment très, très belle, très poétique. Et l'autre, merci, c'est « Critiquement incorrect », entre parenthèses, « Mauvais goût et mots vécus ». êtes-vous politiquement incorrect, Linda Lemay? Êtes-vous anti-woke? C'est quoi ça, « Critiquement incorrect »?
Ben effectivement, je sais. Moi, je me censure jamais lorsque j'écris mes chansons.
Ouais.
C'est au moment de les populariser ou de décider de les populariser que là, je me pose la question, est-ce que je dois sortir ça? Et souvent, ma famille va être très critique, justement, et va me conseiller, ah oui, tu devrais la faire connaître, cette chanson-là, ou le contraire. Donc, ma mère ne se gêne pas pour me dire, ah non, ça, là, je pense que dans cette chanson-là, ça apporte rien. C'est presque insignifiant. Je vois pas pourquoi tu sortirais ça. Elle a pas peur des mots et elle a pas peur de me critiquer.
Hey boy.
Alors, il est arrivé à plus d'une reprise de me dire, ah, ça, celle-là, là, si tu la sors, par exemple, dans la chanson, il y a personne qui mange pareil. Elle a dit, si tu sors ça, je te renie.
Ah, OK, d'accord.
C'est arrivé à plusieurs reprises que je ne lui ai pas obéi. J'ai sorti la chanson, par exemple, Tête de bouchon, je la fais encore en spectacle, on s'amuse, c'est tellement gros qu'on comprend que c'est l'humour quand je parle des cyclistes de cette façon-là. Donc, elle les a apprivoisées, ces chansons-là, et je me dis que peut-être que les chansons de Critiquement incorrect, elle va finir aussi par les aimer, et je pense que c'est déjà le cas, parce qu'on vient de tourner un clip sur une chanson qui s'appelle Nausée. Ah bon? Ça, d'après moi, ma mère aurait classé ça dans insignifiant. Ça parle des odeurs corporelles qu'on
très
a
drôle.
Tous notre petit jardin secret de toutes sortes d'odeurs. Et puis, je me suis amusée donc avec un rythme très, très country à faire une chanson rigolote. Et puis finalement, ben je pense que ma mère, en voyant les images que Mobic a mis là-dessus, Bruno Labrie, qui m'a fait un super beau clip, elle a finalement dit « Hey, c'était drôle, on a ri en l'écoutant ». Donc, c'est ça que j'ai la chance d'avoir une maman qui s'adapte
tant mieux
à ce que je décide de faire.
Ouais. Êtes-vous, est-ce qu'on a un scoop aujourd'hui? Vous êtes en train de nous annoncer que Linda Lemay a fait une chanson sur les pets?
Sur les pets, oui, entre autres, les
ah
pets,
ouais?
Les sous de bras, tout ce qui peut sentir dans un corps humain, et vous allez voir qu'il y a des raccoins que peut-être
auxquels on n'avait pas pensé.
Vous ne saviez pas que ça pouvait tuer.
Je sais pas, l'espace entre le petit orteil et le gros orteil ou toutes sortes d'orifices, hein, qui peuvent.
Allez voir. Je passe en revue à peu près toutes. En tout cas, c'est toutes sortes de mondes. Ça apprend plein de monde pour faire un monde de
absolument.
Sortes d'égos, des caractères, et voilà.
Bon, c'est ça, tout à fait. Soyons plus sérieuses deux minutes parce que c'est un sujet oui. extrêmement touchant. Vous allez participer le 10 juillet à Sainte-Thérèse à un spectacle bénéfice pour la maison Adhémar Dion. On sait qu'évidemment Adhémar, c'est feu le papa de Céline Dion. C'est au profit d'une maison donc de soins palliatifs de La Naudière. La raison pour laquelle je dis que c'est un sujet plus sérieux, c'est que je me demande quand on chante justement pour la maison Adhémar Dion, on peut pas s'empêcher, j'imagine, d'avoir une pensée pour Céline, dont on ne sait même pas si elle va pouvoir chanter un jour. Est-ce que vous, quand vous voyez la santé, les problèmes de santé de Céline, est-ce que ça vous inquiète? Oui. Est-ce que vous dites un jour, peut-être, moi... ce que je veux dire, c'est qu'entre chanteuses comme ça, est-ce qu'on se pose parfois la question, est-ce que ça pourrait m'arriver à moi?
Ah, ça, c'est sûr. Si je fais autant de chansons que ça en ce moment dans ma vie... C'est parce que je suis très consciente du fait que la vie peut basculer à tout moment et qu'on, quand, passé la cinquantaine, quand on approche la soixantaine, on se dit, bon, mais la santé peut nous lâcher à un moment donné, puis on ne sait pas pour la suite comment on va faire pour fonctionner.
Tout à fait.
Donc, étant très consciente de ça, et suite au départ de mon papa aussi,
oui.
Ça m'a rendue encore plus consciente de ce fait-là, que la vie peut basculer à tout moment. Alors, je fais aujourd'hui ce que je suis capable de faire, et en plus, j'avais un petit problème, et je l'ai toujours, de béance tubaire, qui est un problème au niveau de l'audition. C'est pas de la surdité, mais c'est réellement comment ça résonne dans la tête. Et je sais que Céline avait eu ce même problème-là avant d'avoir des soucis de santé qu'on connaît maintenant. Alors, c'est sûr que je vois ça arriver et je me sens pas du tout à l'abri, puisqu'on a déjà eu un souci commun comme oui. chanteuse. Donc, évidemment, je me dis, bon, ben là, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier, de pouvoir faire une 63e fois très bientôt l'Olympia à Paris dans une salle comble. Ma productrice vient de m'appeler pour me dire que c'était déjà wow. rempli avant même qu'on affiche. On en prévoit une 64e. Je prévoyais même pas, moi, avec la tournée de La vie est un conte de fou, me rendre à 3 ans de spectacle. Et puis là, je sens que ça va déborder avec ce spectacle-là. Là, tellement le public est fidèle. Donc, c'est complètement fou ce qui se passe et c'est merveilleux parce que je dirais qu'au début de ce gros projet-là, il y a eu beaucoup de regards qui se sont posés sur moi. Oui, il y avait des gros doutes. On me disait, OK, ouais. là, Linda est virée folle. Je sais pas, elle rentre à quel âge, mais pour moi, elle est sénile, là, tu sais, ben, elle se rendra jamais au bout de ça. C'est son suicide dans sa carrière. Et puis, non, je suis tellement passionnée. J'ai tellement de choses à dire et je suis toujours aussi inspirée qu'à mes débuts et peut-être plus parce que j'ai comme beaucoup d'expérience. Je sais comment faire les choses, mais j'ai toujours une espèce de spontanéité qui me stimule. Et moi, je travaille dans la spontanéité et je trouve ça extraordinaire de garder cette jeunesse-là dans la façon de faire les choses.
Absolument. Et au point d'interrogation des autres, vous répondrez par un point d'exclamation. C'est comme ça qu'on vous aime, Linda Lemay. Merci beaucoup, puis on a très hâte au 16 juin pour connaître en particulier cette chanson « Nausée à bon ». J'ai très hâte d'entendre votre chanson sur les pets, les proutes et les pouettes-pouettes. Merci beaucoup, Linda.
Merci beaucoup, là. Bye
Ça a été un plaisir. Je voudrais remercier Jessica à la mise en onde et la réalisation, Jessica Giroux et Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. On a hâte d'entendre ça quand même. Linda Lemay sur les pets. J'ai déjà hâte.
Cube Radio.